Bonjour à tous, vous êtes sur le mug numéro 85, c'est l'édition spéciale sur la chaîne principale, l'édition du vendredi. On est le vendredi 24 janvier 2020 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi matin. Pour ceux qui ne connaissent pas la formule, vous êtes sur une revue de presse de la technologie au sens large, c'est ça le mug, et ça a lieu tous les jours de la semaine. Vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est qu'en fait, du lundi au jeudi, ça se passe sur la chaîne secondaire Nowtech Live. Vous avez un lien pour vous abonner. Si la formule vous plaît, que vous découvrez ça sur la chaîne principale, n'hésitez pas à nous rejoindre les autres jours de la semaine. Voilà, voilà, bonjour, la chatroom est déjà bien remplie, hein. J'espère que vous n'avez pas trop froid chez vous. Paris, ça pèle un peu moins ce matin, mais on se les est bien cahiers, là. Et l'atelier, c'est quand même super mal isolé. Donc, déjà que j'ai tendance à avoir la tremblotte avec mes jambes, si vous me voyez comme ça, c'est le froid. Mais bon, il faut bien ça. À Toulouse, il fait bon. Bon, ça va, hein. Puis après, je vais avoir tout le monde... tous ceux qui sont outre-mer, qui vont nous partager leur température indécente. On va commencer tout de suite par les news. Comme d'habitude, le vendredi, je vais faire un petit récap de la semaine des news qui m'ont paru les plus importantes cette semaine. Et puis après, on attaquera les news du vendredi parce que la tech ne s'arrête pas le vendredi. On commence tout de suite, c'est le Kawa, c'est les news. Et les news de la semaine, qu'est-ce qu'il ne fallait pas rater cette semaine? En tout cas, c'est ce que moi, je pense, dans les news qu'on vous a fait cette semaine. Je pense qu'une des news les plus importantes, en tout cas, c'est un message qu'on a à vous apporter. Attention à une arnaque sur Facebook et spécifiquement sur Messenger. Si vous recevez un message, surtout d'un ancien contact ou de quelqu'un qui vous écrit pas souvent et qui vous... Et le titre, c'est quelque chose du genre « Est-ce que c'est toi dans cette vidéo ?» C'est toi dans cette vidéo. Ne cliquez surtout pas dans cette sur cette vidéo. Et pour tout vous dire, et pourtant, hein, je fais l'info sur tout ce qui est phishing et tout, j'ai failli me faire avoir hier. C'est-à-dire que sur Messenger, m'a écrit mais un ami que j'avais pas vu depuis 15 ans. Et alors, bon, moi, je suis d'autant plus touché que ça m'arrive régulièrement que des gens que je connaissais il y a 15, 20 ans, des amis d'enfance et tout ça, me voient parce que leur gamin regardait une de mes vidéos. Ils font « Mais c'est toi, ça ? Oh là là, t'as bien changé !» Donc, ça m'arrive assez souvent. J'ai failli cliquer, effectivement, sur ce lien. Donc, méfiez-vous. C'est plutôt bien fait. Ça se passe sur Messenger. C'est écrit en français. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez reçu ces... Est-ce que dans la chatroom, il y en a qui ont reçu ce message ? Dites-le moi rapidement, même si on n'a pas trop le temps de lire la chatroom ce matin. Est-ce qu'il y en a qui l'ont reçu, ce message, sur Messenger ? Ou c'est juste moi ? Fred, tu l'as reçu ? Non, alors c'est Messenger et Facebook. Hein. Ouais, donc il y en a certains d'entre vous qui l'ont reçu. Hein. Jérôme, ne clique pas sur Nowtech, il y a plein de vidéos où tu apparais. Je re-regarde assez... Non, quoi que si, ça m'arrive de re-regarder mes vidéos quand même. Mais généralement, c'est des moments de crispation. C'est dur de se revoir. Surtout quand on s'est vu 20 fois au montage déjà. Bon, allez, on continue dans les news qu'il y avait d'intéressant cette semaine. Studio Ghibli, tous les films arrivent sur Netflix, donc joie, bonheur, sauf pour nos amis américains ou Canada, parce que les droits sont négociés avec HBO pour ces deux territoires-là. Mais pour le reste du monde, tous les films du studio Ghibli, arrive février, mars et avril 2020. Le Château dans le ciel, mon voisin Totoro. C'est pas des... Alors Marion, elle est à fond, Elle connaît tout, elle va connaître les répliques et tout. Moi, c'est pas trop ma culture. Après, j'avais beaucoup aimé le. C'est quoi déjà que j'avais beaucoup aimé? J'ai même une édition collector. Ah, j'arriverai pas à retrouver. C'est pas Princesse Mononoke. C'est peut-être Le Château dans le Ciel. C'est peut-être ça. Non, Le Voyage de Chihiro. Voilà, c'est ça. Que j'avais beaucoup aimé. Et c'est vrai que c'est des animés. Attention, hein, c'est pas Goldorak ou du mauvais animé. Là, c'est au rang d'art. Ça arrive sur Netflix. Ça arrive sur Netflix. J'avais pas dit. Oh, honte à moi. Maltraité l'info. sur le studio Ghibli, on est sur Netflix, pas sur Disney+. Non, on est sur Netflix. Ça va permettre à Netflix de répondre un peu à Disney+. Ça va être intéressant, cette baston, sauf pour nos porte-monnaies. Justement, on y arrive. Autre news sur le streaming. J'ai trois news sur le streaming. Marion a fait, c'est mercredi, elle a fait un mug entièrement de news streaming. Si ça vous intéresse, allez regarder le replay, hyper intéressant. Mais moi, j'ai retenu trois news. Disney va arriver en avance. Disney Plus arrive avec une semaine d'avance en France, puisque ça va commencer le 24 mars. Et ça sera bien à 6,99€ par mois. Donc, si vous voulez vous regarder The Mandalorian, que moi, je vous conseille, puisque j'ai beaucoup aimé, me demandez pas comment je vais regarder, je ne pourrai pas vous répondre, eh bien, je vous conseille de tester Disney+. Et en dernier, c'est justement dans les news de la semaine, Netflix et la chronologie des médias. Netflix a annoncé qu'il allait investir plus de 12 milliards en production dans le monde. C'est un chiffre absolument 12 milliards, hein, pas millions, 12 milliards en production. Je pense que c'est devenu le plus gros producteur du monde de contenu audiovisuel, dont une partie en France. La France, c'est un marché hyper important pour Netflix, il faut le savoir, parce que c'est un marché très dynamique. Je sais plus, mais il y avait un chiffre, genre c'est un Français sur 10 à Netflix ou quelque chose comme ça. Du coup, ils se font des petits bisous avec le gouvernement français parce que du coup, ça va faire vivre la production française puisqu'ils vont produire des séries françaises, des films français. Tout ça, ça fait vivre. Et du coup, le gouvernement est favorable à une renégociation de la fameuse chronologie des médias qui a tendance à handicaper les offres de SVOD dans le pays. Certains trouvent que c'est normal, c'est pour défendre la production en France. Ça se discute. Je pense que, voilà, le gouvernement, quand t'as un gros groupe comme Netflix qui décide d'investir quand même dans la création française et faire travailler tous les corps de métier autour de l'audiovisuel en France, tu vas peut-être, ils vont peut-être mettre un peu d'eau dans leur vin en ce qui concerne la chronologie des médias. Vous attendez pas non plus à ce qu'on ait les films aussi rapidement qu'aux États-Unis, mais peut-être que l'écart va se réduire un petit peu. À voir. Pour confirmer, je paye déjà 15,99 Netflix Premium. Donc, pour l'info, augmentation du tarif. Oui, on en a parlé. Le tarif de base n'augmente pas, mais les deux autres tarifs de Netflix augmentent. Je continue dans les news. Hein. Allez voir, effectivement, les mugs de cette semaine. Si vous voulez voir ces news-là traitées plus en longueur, moi, je fais vraiment une brève de ce qui était important pendant la semaine. Trump et Macron calment un petit peu le jeu sur la taxe numérique. Ils discutent à Davos. En gros, la situation actuelle, c'est, vous le savez, la France est une des premières à dire, nous, on va imposer la taxe GAFA, puisque le reste du monde n'arrive pas à se mettre d'accord sur une taxe sur les GAFA et GAFAM. Les États-Unis furieux, on va taxer les vins, on va taxer les fromages, on va tout taxer. Combat effectivement commercial, parce que derrière, l'Europe a dit attention les États-Unis, si vous commencez à taxer des trucs, nous aussi on va se mettre à taxer des trucs. Bref, on est dans de la guerre commerciale, on a vu le bras de fer entre les États-Unis et la Chine, comment ça se passe. ils ont décidé quand même de calmer le jeu. Tout l'enjeu, en fait, est pour la France aujourd'hui et pour les autres pays qui poussent à cette taxe sur les grands groupes numériques, c'est qu'on arrive à une décision mondiale de l'OCDE. La France n'a pas envie d'être le seul pays qui le fait. Donc, je sais que certains ont dit « Ah ouais, la France, elle baisse sa culotte dès que Trump il menace de taxer les vins. Bah, bravo, Macron et tout ça. » Enfin bref, toujours la politique avant tout. Je pense pour le coup, en tout cas c'est mon opinion personnelle, que là, pour le coup, ils ont raison de dire « Ok, on calme un peu le jeu, on attend de voir si on va se mettre d'accord. » Parce que la France préférerait qu'il y ait une décision au niveau mondial ou au niveau européen que d'être seul avec sa bite et son couteau, avec sa petite loi GAFAM qui fait que Google, ils vont tout couper chez nous, on va être dans la merde. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est pas du tout annulé, hein, la taxe GAFAM. Tout ça est suspendu. Tout ça se négocie. Voilà. C'est pas annulé. Il y en a, oui, j'ai vu des tweets... il laisse tomber, ah ben bravo, la France se déculotte. Toujours la fierté du coq avec les pieds... Bon, bref, je ne me lançais pas là-dessus. On continue dans les news intéressantes de cette semaine. La dernière que j'ai retenue, et c'est certainement une, on n'a pas fini d'en entendre parler, c'est le scandale Clearview AI, une start-up qui aurait volé des milliards de photos. En gros, qu'est-ce qui se passe? Cette start-up... Et elle est financée par Peter Thiel. Si vous ne savez pas qui est Peter Thiel, on va dire que c'est un personnage un peu polémique dans le monde de la tech. Cette société Clearview AI est en partie financée par lui. Eh bien, en fait, c'est un système de reconnaissance faciale utilisé par pas mal de services d'ordre. Et en fait, ils nourriraient leur intelligence artificielle avec les photos qu'on poste allègrement sur nos profils Facebook, Twitter, Instagram, etc. Ce qui est interdit par les clauses d'utilisation de ces réseaux sociaux-là, qui ne souhaite pas qu'on prenne nos photos pour les utiliser pour nourrir une base de données de reconnaissance faciale. L'histoire est en train de se détricoter autour de ça. Twitter est d'ailleurs le réseau qui monte le plus au créneau sur cette histoire. Je crois qu'ils ont porté une plainte hier officielle. C'est le réseau social où c'est le plus écrit dans leurs conditions d'utilisation. Ils avaient même écrit en anticipant ça. Il est interdit à une autre société de puiser dans notre base de données d'images de profil pour nourrir une intelligence artificielle. Donc... À voir effectivement comment cette histoire va se dérouler. De l'autre côté, la défense de Clearview commence à s'organiser. J'ai vu un article hier où Clearview disait « Oui, mais grâce à ça, on est arrivé à arrêter un terroriste. » On va pas repartir là-dessus. On en reparlera quand même un petit peu dans les articles. Il y avait un dernier article que j'ai oublié de vous faire, effectivement. C'est le FBI qui est arrivé à déverrouiller le dernier modèle sans l'aide d'Apple. Justement, toujours un petit peu dans ces histoires-là, Apple continuait à refuser au FBI de débloquer les codes d'accès de deux iPhones, dont un très récent. Trump était montré au créneau en disant que Apple n'était pas patriotique et quand il s'agissait de terroristes, de pédophiles et de meurtriers, Apple devait donner accès à ses iPhones en mettant des backdoors. Et c'est ce que Apple refuse de se faire. Comme l'a dit Apple, et on va y revenir dans les articles d'aujourd'hui, le iCloud, on vous l'a filé, toutes les datas qu'on pouvait, on vous les a filées, le FBI, mais on ne mettra pas de backdoor sur nos smartphones. Parce qu'à partir du moment où on a mis une porte, eh ben tout le monde peut rentrer. Tout le monde qui se donne la peine et qui force un peu le truc, tout le monde pourra déverrouiller un iPhone qui n'est pas le sien. Et c'est extrêmement dangereux, les backdoors. On va pas revenir sur ce débat. On l'a eu au moins 2-3 fois cette semaine. Le truc, c'est que manifestement, le FBI n'avait pas tant besoin que ça que Apple mette une backdoor, puisque avec un système, on en a parlé aussi dans la semaine, c'est le boîtier Grey Key qui vaut 30 000 $, ils sont arrivés à le déverrouiller. Là où il y a une nouveauté, c'est que normalement, le boîtier Grey Key arrivait à déverrouiller des iPhones sur iOS 12, mais pas iOS 13, et là, manifestement, ils y arrivent. Donc, comme quoi, ils n'ont pas besoin qu'on mette des backdoors sur les OS de smartphone, quoi. Donc, ça peut être un dossier un petit peu difficile à comprendre, mais c'est un dossier super intéressant. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous informer. Et voilà, c'était un petit peu les brefs de la semaine. Je vais pouvoir commencer les articles du vendredi. Qu'est-ce qui se passe dans le monde merveilleux et terrible dans la tech ce vendredi? Eh bien, déjà, on parle de Microsoft. Microsoft et ses surfaces double écran. Vous le savez, c'était il y a quelques mois. C'était en octobre. Oui, en octobre, Microsoft avait levé le voile sur deux concepts qui n'arriveront pas avant, je crois, 2021 ou 2022. Je ne sais plus les dates. C'est des concepts, hein, vous emballez pas tout de suite, mais ces deux concepts sont Surface Duo qui tournera sous Android et Surface Neo qui tournera sous Windows 10. Le principe, c'est des ordinateurs à double écran. Je vous montre un petit peu. Voilà, ça sera c'est pas des ordinateurs comme ou des smartphones comme sont en train de le faire Samsung et d'autres qui auront un seul écran qui se déplie. Là, il y a vraiment une séparation au milieu. C'est deux écrans. On voit d'ailleurs là comment ils proposent d'afficher une image plein écran. Soit on splittera l'image en deux, soit le système masque prendra en compte la séparation entre les deux écrans pour avoir une homothétie en fait de votre image. Pour une photo, on va dire, ça va à peu près, mais c'est sûr qu'on ne va pas regarder des séries sur ces trucs-là. C'est un premier truc qu'on peut dire sur ces surfaces, c'est que ça ne va pas forcément faire des outils de consultation de contenu. Pour regarder des vidéos, ce n'est pas l'idéal, effectivement, d'avoir une pliure au milieu. Le truc, c'est qu'ils ont montré pas mal de choses à des développeurs pour donner effectivement envie aux développeurs de commencer à travailler là-dessus. Je vous montre aussi avec les différents systèmes que les développeurs pourront ajouter dans leurs applications pour les rendre hyper intéressantes avec ce deuxième écran. Il y avait une vidéo, mais je ne l'ai pas dans cet article, donc je ne vais pas perdre de temps à la chercher. Mais vous pouvez chercher, ils ont fait une petite vidéo démo là-dessus. Ça a l'air pas mal, hein, comme ça. Moi qui utilise le split screen sur mon iPad énormément pour travailler, pour travailler en tout cas, ça me dérangerait pas que les deux écrans ne soient pas reliés entre eux. Au contraire, ça donne une certaine séparation. C'est un peu comme quand on travaille avec deux écrans. Ça permet de classer un petit peu ses données, classer un peu ses idées. À droite, j'ai mon texte définitif. Là, j'ai mes brouillons, mes pages web dont je m'inspire. Ça peut être pas mal du tout pour le boulot. Le problème que ça va poser, moi je commence à le voir arriver pour la Surface Duo et Surface Neo, c'est que ça demande une écriture spécifique pour ces systèmes-là. On sait qu'en gros la concurrence Samsung, Xiaomi et autres sont plutôt en train de travailler sur des concepts d'écran pliable où il n'y aurait pas de séparation au milieu, qui demande moins d'adaptation de l'application en fait. Donc ça risque d'être un problème et Microsoft risque de renouer avec ces vieux démons qu'ils ont eu avec les Windows Phone, c'est que les développeurs vont peut-être être moyen chaud pour faire un développement spécifique sur les produits. Donc, à voir effectivement comment ça va évoluer. Qu'est-ce qui se dit dans la chatroom? J'ai pas compris d'avoir un... Oh, ça parle beaucoup entre vous, hein. En fait, j'existe pas. Je vois que le PC avec deux écrans chez Asus et je pense que ça apporte un nouveau usage, sa promesse et surface. Tout à fait. À voir effectivement si les autres constructeurs suivent le concept de Microsoft et que tout ça soit compatible. De toute façon, c'est ce que Microsoft veut avec Surface. Ils ont toujours créé les surfaces pour que leur collègues, on va dire, ceux qui développent des alternatives sous Windows, prennent un peu les surfaces en modèle et développent un petit peu sur ce modèle-là. Est-ce que donc les autres constructeurs vont suivre sur Duo et Neo? À voir. À voir. Ce qui risque d'être un petit peu bizarre, c'est que Duo va être sur Android, Neo va être sur Windows 10. Là aussi, Microsoft a tendance à renouer avec ses vieux démons d'avoir des trucs qui ont un peu le même nom, mais qui ne fonctionnent pas sur des trucs pareils. Souvenez-vous de Surface RT, une des plus grosses catastrophes, à mon avis, de marketing. Donc, à voir, à voir. En tout cas, ça a l'air de vous intéresser dans la chatroom. On en reparlera fort probablement. On va parler aussi d'une étude assez inquiétante de l'association UFC Que Choisir qui a testé 20 modèles de chargeurs pour les smartphones, pour les tablettes, etc. et a trouvé que la moitié était défaillant et pourrait mettre le particulier en danger. Et effectivement, les constats font assez froid dans le dos. Quels sont les risques d'un chargeur, d'un mauvais chargeur? Le pire, c'est de griller votre smartphone ou de votre tablette. Le pire, c'est de prendre feu et de vous cramer pendant la nuit. Donc, attention, soyez vigilants. Surtout, alors je ne vais pas citer la liste, si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire les articles parce que la liste est longue, effectivement, et je n'ai pas envie forcément de faire de la pub pour les uns ou pour les autres. Mais globalement, moi, ce que j'en ai retiré, c'est que même si ce n'est pas une constante, il faut se méfier quand même des premiers prix et des marques complètement inconnues pour les chargeurs. Faites très attention aussi à la charge rapide. Quelque part, la charge rapide, entre guillemets, n'a pas de limite. Hein. On peut balancer, alors je ne sais pas si c'est des watts ou des ampères, parce que je suis nul en électricité, je pense que c'est des watts. On peut en balancer beaucoup, mais vérifiez bien que votre smartphone est fait pour ça et que le chargeur peut tenir effectivement par rapport à ça. Donc, faites attention, il existe effectivement certains labels, comme, je ne sais pas s'il y a du « made for iPhone », pour les chargeurs même, pour les câbles, oui, pour les chargeurs même. Mais préférez quand même du câble de marque. Quand je parle de marque, des choses comme Anker, etc., sont plutôt des bonnes marques connues pour leurs chargeurs, donc qui ont déjà une réputation et qui vont être vigilants. Se méfier des premiers prix, ne serait-ce que pour sauvegarder votre smartphone, mais surtout sauvegarder votre vie. Et si jamais vous avez un problème avec un chargeur, c'est ce qu'il y a d'intéressant dans cet article, c'est que vous avez UFC Que Choisir met à disposition un courrier, un modèle de lettre pour faire valoir vos droits, pour dénoncer aussi des chargeurs irréguliers. On se demande d'ailleurs comment ces chargeurs passent les normes, mais on sait qu'aujourd'hui, avec la distribution éclatée au niveau mondial, c'est compliqué de suivre tous les pays qui sont tous les produits qui sont distribués sur notre territoire. Merci beaucoup Henri pour Henri Biard pour ton super chat. Préférez toujours le chargeur qui est fourni avec l'appareil, si vous pouvez, même si ce n'est pas le plus rapide. Et là, je pense aux iPhones. En tout cas, pour tout ce qui est charge de nuit, préférez le chargeur qui est dans la boîte. Après, pour le chargeur au bureau, des chargeurs que vous pouvez surveiller, vous pouvez prendre des chargeurs d'autres marques. Mais je vous conseille de ne pas chercher forcément les premiers prix. Voilà, c'est... Et de voir effectivement si toutes les normes sont respectées, de bien lire les étiquettes, etc. Et si vous possédez des chargeurs avec des défauts de conception, demandez un remboursement, mais pas que. Aussi, là justement, ils mettent ce courrier pour informer les services publics de la dangerosité de tel ou tel produit, quoi. Donc, ouais, ne lésinez pas sur le prix de vos câbles, ne lésinez pas sur le prix de vos chargeurs. On n'a qu'une vie et cramer dans un feu de lit, c'est une horreur absolue. Désolé hein, de projeter cette image horrible dès le matin, mais voilà, c'est plus important qu'un smartphone chargé. Ou chargé rapidement. Bref, allez, on continue dans les articles. On va parler d'appareils photo. Alors, tous ceux que ça intéresse pas, vous pouvez fermer les yeux pendant 2-3 minutes. Je voulais juste parler du Fuji X-T200 qui vient d'être annoncé, qui a l'air vraiment intéressant. On avait un parlé, je l'avais pas testé finalement sur la chaîne, le X-T100, mais je vous avais testé le X-T3. Fuji, c'est des APS-C, donc des capteurs un petit peu plus petits que du full frame, mais avec une approche de la photo et des réglages qui est vraiment propre à Fuji. Quand on aime Fuji, généralement, on a du mal à passer sur un autre système. Moi, j'avais beaucoup apprécié mes vacances au Vietnam avec le X-T3. plus en photo qu'en vidéo, je vais être franc. Mais là, ce qu'ils ont fait très intéressant, c'est que ça va être un appareil donc qui va être à peu près à 700 $ sans objectif et à 800 $ avec un 1545 f3.5 5.6. Donc, un prix assez alléchant et il a un écran réversible. C'est une première chez Fuji. Ils ont compris effectivement que c'était une demande pas de tout le monde, mais une demande surtout d'une nouvelle génération de photographes vidéastes qui veulent effectivement que leurs appareils fassent les deux, et des performances en vidéo et des performances en photo. Je pense que même le marché commence à être drivé par cette population-là. Certains photographes le regrettent. Il y aura toujours des appareils spécifiques photo, mais aujourd'hui, le marché de l'appareil photo haut de gamme, au-delà du smartphone, c'est un appareil qui permet de faire de la photo et de la vidéo. Même si les gens ne font jamais de la vidéo avec, ils veulent la possibilité de pouvoir faire des vidéos de qualité. L'écran réversible, c'est quelque chose qui peut être important pour les photographes, mais c'est surtout quelque chose d'important pour les vidéastes. Alors, bien sûr, pour faire du vlogging, parce que ça permet de se voir. Là, vous le voyez pas, mais en fait, mon GH5S qui me filme en ce moment, bah, j'ai l'écran réversible, ça me donne un petit écran de contrôle qui est là, et ça me permet de me voir, parce que j'ai pas un caméraman qui me filme. En ce moment, j'ai besoin d'un écran de contrôle. Donc ça, c'est un énorme avantage, effectivement, quand on fait de la vidéo avec son appareil photo, d'avoir cet écran réversible. Sinon, il aura effectivement un capteur de 24 mégapixels, APS-C, avec de la phase détection pour l'autofocus. Donc ça, c'est youpi. Et au niveau de la stabilisation, il sera très, très bien stabilisé. En tout cas, c'est ce que promet Fuji, avec un gyroscope pour qui va donner des infos logicielles. A priori, de ce que j'ai compris, hein, ça va pas être une stabilisation physique du capteur, mais un gyroscope très perfectionné, un petit peu ce qu'on a sur les GoPro, les nouvelles GoPro, qui donnent des stabilisations beaucoup plus performantes qu'une stabilisation logicielle d'analyse d'image. Parce qu'une stabilisation qui prend les infos d'un gyroscope et les reproduit sur l'image fera une bonne stabilisation. C'est un espèce de compromis entre une stabilisation physique et une stabilisation purement logicielle. Effectivement, c'est important que tu le dises. Le Fuji, c'est de la monture X. Et en monture X, il y a des objectifs vraiment pas chers et de très très bonne qualité. Si vous avez jamais essayé un Fuji de votre vie, je vous conseille vraiment d'essayer un jour. Moi, je sais que j'aimerais bien avoir un Fuji, surtout pour la photo. Toujours avoir un Fuji parce que j'y ai pris énormément de plaisir à utiliser un Fuji. Alors, est-ce que je le testerai ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. En tout cas, c'est peut-être un appareil intéressant. Quand je vous avais testé des appareils pour commencer YouTube, il y avait le M50 de Canon et le G... Je crois que c'était le G85. Ça pourrait être un appareil qui s'inscrit à côté de ces appareils intéressants pour, par exemple, commencer une chaîne YouTube. Donc, à voir. non, attention, les X-T200, ils ont beaucoup moins de performance que le X-T3, X-T30 et le X-T4 qui va sortir. C'est pas les mêmes performances. Je rentre pas dans le détail de la fiche de spec, mais c'est quand même un cran largement en dessous, hein, en termes de performance. C'est pas le même prix, hein, non plus. Hein. Pas le même prix, mais quand même intéressant, hein, le X-T200, notamment pour quelqu'un qui débute en boîtier à objectif interchangeable. On va parler un petit peu d'iCloud, et c'est vrai que moi aussi, hein, je me suis un peu gratté la tête cette semaine. Quand on a vu ces histoires d'Apple qui refusaient d'ajouter des backdoors, que le FBI disait « Oh, mais c'est pas bien, vous déverrouillez pas vos smartphones, on en a besoin pour chasser des terroristes », et que Apple a dit « Non, mais attendez, on vous aide, on vous a envoyé tout ce qu'il y avait sur iCloud. » J'ai fait « Ah ouais, donc, tout ce qui est sur iCloud, là, pour le coup, c'est Apple, t'as rien protégé du tout, hein, t'envoies tout. » Et ben ouais. Et effectivement, le patron de Telegram, qui est cette application de messagerie chiffrée bout en bout, dit « Ouais, il faut que vous vous rendiez compte que vos iPhones, Vos iPads sont très bien protégés, hein, avec le mot de passe et tout ça. Apple garantit la vie privée sur votre portable même. Mais par contre, dès que ça commence à migrer par iCloud, il n'y a plus de vie, enfin, il n'y a plus de vie privée. Apple ne revend pas les données. Donc, on pourra avoir un gros débat là-dessus. Je pense que la ligne marketing d'Apple de protection de la vie privée ne s'effondre pas avec cette news, contrairement à ce que certains disent, parce que Apple, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ne fait pas de business en analysant ce data et en fournissant une analyse de nos data d'iCloud, comme le fait des Google ou autres. Donc, quand même, il faut pas. Je veux bien, mais par contre, c'est vrai que ça met un petit peu à mal cette posture marketing d'Apple, du chevalier blanc qui défend notre vie privée. Et on parle même que Apple avait l'intention de faire un chiffrage de bout en bout sur les données iCloud. Et certains disent c'est le FBI qui aurait dit et que Apple aurait obéi. Qu'il y aurait eu effectivement une grosse influence du FBI sur cette décision, en tout cas ce manque de décision d'Apple, de chiffrer bout en bout nos données iCloud. Donc, est-ce que ça veut dire que les données iCloud sont vulnérables et ouvertes à tous les vents ? Non, ne prenez pas des raccourcis faciles. C'est simplement qu'en cas d'enquête policière sur vous, Apple refusera de déverrouiller votre smartphone, mais par contre ne refusera pas de balancer toute votre data iCloud aux forces de l'ordre. Donc, si vous avez tout bien verrouillé, mais que les plans d'attaque de la base secrète, vous les avez mis sur votre iCloud, ça ne marchera pas. Voilà. Donc, si vous voulez quelque chose reste vraiment dans votre vie privée, à la limite, vous le mettez juste sur votre smartphone, mais pas de partage. Et certains vont dire oh non mais j'irai partager ailleurs. Non non, les autres c'est pire. Hein. Si vous mettez une photo sur Google Photos, elle est analysée, envoyée à manger à l'intelligence artificielle, enfin la totale quoi. Encore un qui a baissé la culotte. Ouais, je pense que après, de toute façon il y a des lois hein, quand même qui existent quand c'est les forces de l'ordre qui. C'est là où Apple, quelque part, et cette info sur Apple la semaine dernière, je m'en suis aperçu, était mal comprise. Les gens disaient, non, mais Apple cache les pédophiles et ce genre de choses. Non, Apple, quand le FBI mène une enquête et qu'ils ont un mandat, donne déjà énormément d'informations. Parce qu'ils y sont tenus par la loi. Le truc que Apple refuse de faire, c'est de mettre une vulnérabilité sur la protection physique de ses iPhones. De pas mettre de backdoor. Voilà. Tout dépend des forces de l'ordre de quel pays. C'est toujours le problème avec ça. C'est toujours le problème, effectivement. Non, Apple ne fait... Attention, Apple, là, en tout cas, jusqu'à ce qu'une enquête, peut-être, dévoile le poteau rose de la régie secrète d'Apple qui vend l'analyse de nos data à des annonceurs, jusqu'à preuve du contraire, Apple, contrairement à Google avec Android et tous les autres services gratuits, ne fait pas d'analyse marketing de notre data pour revendre de l'espace publicitaire à des acteurs tiers que sont les annonceurs. Là-dessus, Apple, on peut pas dire ça d'Apple. Et en ça, ils ont quand même raison de dire on protège votre vie privée. Nos données ne sont pas analysées pour en faire une marchandise, en fait. Donc, des backdoors existent déjà, pas besoin d'en créer volontairement. Là, on peut tout dire hein, quand on est dans les choses sans preuve forcée. On peut effectivement tout dire. Ça va être l'apocalypse sur Twitter. Et pourquoi je vous dis ça, que ça va être l'apocalypse sur Twitter ? Eh bien, les emojis réactions, les emojis réactions débarquent sur Twitter. ce que vous adoriez détester sur Facebook. Mais attention, ça débarque que dans les direct messages, que dans les messages privés. Mais il faut le savoir, effectivement, ces emojis réactions, vous les connaissez de Facebook Messenger, qui vous permettent de réagir aux messages ou même sur vos SMS, etc. Vous allez pouvoir réagir à des DM qu'on vous envoie sur Twitter. Donc, il y aura a priori 7 réactions possibles, du rire aux larmes à la surprise, le pleur, le cœur, le feu, le thumbs up et le thumbs down. C'est bizarre d'ailleurs qu'ils aient mis le thumbs down, mais bon. Mais voilà, l'article est effectivement très, ça va être l'apocalypse, c'est vraiment chiant et tout. Je suis personnellement pas d'accord, parce que j'aime beaucoup les emojis réactions pour terminer une discussion. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi j'ai énormément de gens qui m'écrivent, j'ai énormément de mails à faire, et parfois de faire, on va dire, le message de clôture pour clore une discussion. Ah, merci, à bientôt. Puis l'autre que te dit, ouais, à bientôt, en tout cas, j'espère que ça va chez toi. Et toi, t'es là, ouais, moi, ça va bien, et chez toi, ça va. Et on n'en finit pas de finir, en fait, le truc. Et de pouvoir finir la discussion sur le dernier message de la personne en lui mettant un thumbs up, un petit cœur, un ok, je suis d'accord, on va plus vite. Ça permet de rester poli et pas laisser l'autre en se disant tiens, c'est marrant, et ça, la conversation s'est arrêtée là. Donc moi, je trouve que c'est quand même assez utile. Et je sais que l'autre jour, je me suis dit putain, ça serait bien dans les commentaires YouTube que je puisse mettre quelques émojis de réaction. J'irai peut-être plus vite quand je réagis à certains de vos commentaires. Et ça serait plus poli que de pas vous répondre, parce que j'ai pas le temps de vous répondre à tous. Et c'est vrai que moi, personnellement, c'est rentré un petit peu dans mon vocabulaire, les émojis, on va dire, de réaction au poste. Les emojis permettent de transmettre des émotions, chose impossible à faire facilement avec les mots. Tout à fait. Et vraiment, moi je vous dis, c'est une de leurs principales utilités. Ça me permet de finir. C'est presque une formule de politesse pour finir une discussion. Et ça, c'est cool. Et je sais qu'en SMS, du coup, ce matin, je regardais, en SMS, maintenant, la plupart de mes discussions se terminent par une... vous savez, on fait un long press sur le dernier truc, et on peut mettre un petit cœur, un thumbs up et tout. Et j'utilise énormément, quoi. Qui va réagir avec du feu? Bah si, Franck, c'est le feu. C'est cool. C'est dans le langage quotidien maintenant. Ah, j'ai l'impression que ça se fight dans la chatroom. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je n'ai pas le temps de regarder. Allez, on continue dans les news de ce vendredi. Et on termine surtout avec une news hyper, hyper, hyper importante. L'intelligence artificielle va enfin servir à quelque chose, puisque l'intelligence artificielle va permettre de différencier les fromages. Et ça, il était temps, hein, parce que effectivement, David Fradel, développeur pour la plateforme Prévision.io, une start-up spécialisée dans le machine learning et les modèles prédictifs, avait un problème, c'est qu'il est originaire des monts du Forez, dans le Massif central, et il y a deux spécialités emblématiques à cet endroit-là, la fourme d'Ambert et son pendant plus artisanal, la fourme de Montbrison, qui a failli disparaître. Et justement, il a éduqué l'intelligence artificielle en lui présentant plusieurs photos de ces deux fromages, qui sont quand même, à l'œil humain, assez identifiables, hein. Voilà. La fourme de Montbrison et la fourme d'Ambert, il n'y a pas de confusion possible. Mais pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas et qui se retrouve avec un morceau de fromage dans son assiette, ça peut être quand même important de... Mais en fait, je déconne, mais pas tant que ça. Je me dis qu'il y a vraiment, et d'ailleurs on l'appelle le Shazam du fromage, un truc pour pouvoir reconnaître les fromages dans son assiette. Le nombre de fois où tu es à un dîner, la personne amène un plateau de fromage et tu découvres un fromage qui tue sa mère, et tu lui dis c'est quoi ça? Ah, je suis désolé, j'ai jeté le papier, je sais pas. Mais c'est vachement bon. Et du coup, tu vas pas pouvoir le redemander à ton fromager derrière. Donc c'est con. si on pouvait avoir un Shazam du fromage, ça serait super intéressant. Et je déconne pas. Je déconne pas. Et pas d'ailleurs que pour le marché français. Parce que les étrangers, ils sont complètement paumés avec nos fromages. Nous, globalement, on arrive à faire les différences avec nos fromages régionaux. Mais un étranger, il est complètement paumé. Donc, ça pourrait être intéressant de développer. Alors, certains l'appellent déjà le Chizam, qui est le Shazam du fromage. Et ça, alors, ça a un intérêt au-delà de ça. C'est-à-dire que, effectivement, pour l'alimentation générale, si on arrivait à éduquer des intelligences artificielles de reconnaissance qui arrivent à reconnaître les degrés d'affinage des fromages, qui arrivent à voir les niveaux, je sais pas, de maturation des fruits et des légumes, qui permettent de jauger les aliments, ça pourrait être vachement intéressant. Et même, imaginez un monde où on commence à supprimer les emballages, ce qui pourrait être vachement bien. Une intelligence artificielle qui vous permettrait d'évaluer la fraîcheur de tel ou tel produit qui serait en vrac, parce qu'on aurait moins d'emballages avec des dates limites de péremption et ce genre de choses, revenir à un commerce d'épicerie comme autrefois, aidé par l'intelligence artificielle qui nous permettrait de choisir les produits. Ça pourrait être vachement intéressant. Est-ce que ça vous plaît ? C'est génial. Non, mais on est d'accord. Moi, je trouve ça génial. Non, mais arrêtez de me parler de Kiri de Babybel. Je vais pas critiquer. C'est des plaisirs régressifs. Mais ça mérite pas le nom de fromage. C'est comme si vous me disiez que les vins d'assemblage, c'était des vins. Enfin, là, les trucs, les postillons, machin, les vins premier prix, les vins de cuisine, ça s'appelle vin, mais c'est plus du vin. Les fromages où on fond toutes les vieilles croûtes de fromage, genre vache qui rit, tout ça. Je dis pas que c'est mauvais, hein. Je dis que c'est un goût régressif, goût d'enfance, pas cher, etc. Ce que vous voulez. Enfin, n'allez pas me comparer de la fourme d'Ambert avec une vache qui rit ou un qui rit. C'est n'importe quoi. C'est scandaleux. Attention, il y a des grands vins d'assemblage. Oui, j'étais en train de le penser, qu'on n'allait pas me rater, en me disant, oui, mais attention, le champagne, c'est de l'assemblage aussi. Il y a des grands vins d'assemblage. Oui, c'est pour ça que j'ai précisé. Je parle de ce qu'on a dans les cubis premier prix, le potion, je ne sais pas si ça existe encore, mais le mot m'avait fait rire. C'est des vins dégueux, quoi. Et attention, hein, ça m'arrive hein, d'acheter du Caprice des Dieux ou ce genre de trucs. Moi aussi, hein, j'ai mes petits plaisirs, le fromage industriel, machin. Mais là, pour le coup, on ne peut pas comparer, ça n'a rien à voir. Commence pas avec le vin, tu vas créer la guerre dans le chat, tout à fait. On va arrêter là, de toute façon, les news. L'émission risque d'être longue parce qu'on a encore la tartine à faire. La tartine à faire, je vais faire la même que Guillaume hier. On va reparler effectivement de la vidéo de Linus. On va en reparler parce que j'ai aussi mon mot à dire là-dessus. Et j'aimerais continuer le débat parce que j'ai lu pas mal de choses qui se sont dites hier et j'ai envie de réagir. Mais avant la tartine, on va parler de notre sponsor, le Shadow PC. Et aujourd'hui, nous avons le gagnant du Shadow PC de la semaine, qui gagne donc un mois de Shadow PC pour chez lui. Et le gagnant aujourd'hui, c'est Christophe Coutant. Christophe Coutant, qui nous dit « J'aimerais gagner un Shadow PC avec le Mug Nowtech pour jouer avec mon fils ». C'est beau ça, c'est beau. Eh bien écoute, Christophe, tu vas pouvoir jouer avec ton fils, tu vas pouvoir lui mettre des raclées monumentales, hein, parce qu'il faut lui apprendre un peu la vie et que hein, ces gamins, c'est pas les seuls à savoir jouer aux jeux vidéo, hein, et te venger de toutes les humiliations que Kevin, 12 ans, t'a mis sur Overwatch. Désolé, c'est mon cœur qui parle. Donc bravo à toi Christophe, tu as gagné un mois de Shadow. Si vous aussi, vous voulez tenter votre chance et gagner un mois de Shadow PC, eh bien il suffit de faire comme Christophe, vous faites exactement le même type de tweet. Donc vous nous expliquez en mettant bien les hashtags Shadow PC et et hashtag le mug Nowtech, pourquoi vous voulez gagner un Shadow, pour jouer à tel ou tel jeu, ou pour travailler avec telle ou telle app, pourquoi vous avez envie et besoin. Vous pouvez aussi dire que vous voulez simplement tester si le Shadow PC fonctionne bien chez vous. Eh bien, il faut faire un tweet comme ça, et vous risquez d'être tiré au sort vendredi prochain. Donc, n'hésitez pas à... N'hésitez pas à participer. Non, je ne joue pas à Fortnite, mais je me prends parfois des gros stalls sur Overwatch. Et je pense que les mecs, vu comme ils parlent ou ce que j'entends dans le micro, ils n'ont pas encore mué. Hein ? Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Ah, puis alors, c'est toujours le problème de l'autre. Hein ? Oh là là, oh les heals, vous êtes vraiment nuls. Oh, les DPS, vous faites pas votre boulot. Et les tanks, vous êtes où? Putain, les mecs, ils jouent comme un panard. Ils jouent de son côté. Il est en solo. Il fait n'importe quoi. Il engueule tout le monde. Il braille avec sa voix aiguë dans le micro. Enfin, bref. Pour ceux qui ont déjà joué à Overwatch, il y a des parties. Il faut avoir les nerfs solides. Jérôme, ils sont bons, les graviers. Ouais, ils ont un petit goût de renaisie, là. J'aime bien. Allez, on passe tout de suite à la tartine. L'émission va être longue, Samuel prend le calmant. Je pense qu'on n'aura absolument pas fini à 9h. A tout de suite pour la tartine. Et la tartine ce matin, je voulais continuer à parler avec vous, avec la chatroom, de cette vidéo de Linus Tech Tip. Linus Tech Tip a fait un live hier. C'est un peu sa vidéo des 10 millions d'abonnés. Alors moi qui viens de faire ma vidéo des 200K abonnés, c'est un peu traditionnel que les YouTubers, quand ils sont arrivés à ces paliers d'abonnés, fassent des grandes vidéos spectaculaires ou des gros trucs. C'est un peu une tradition sur les chaînes. Et pour le coup, Linus n'a pas du tout fait ça. Et je dois avouer que moi aussi, hein, j'ai été surpris par son live. Et son live, je vous conseille d'aller l'écouter. Bon, il faut parler anglais. Moi, je l'ai trouvé extrêmement touchant. Quelque part, il a parlé à cœur ouvert, souvent avec la larme à l'œil, des difficultés aussi qu'il rencontrait avec le métier qu'il avait choisi. On ne va pas forcément reanalyser tout ce qu'il a dit sur les difficultés, les pressions, etc. Moi, je vais plutôt revenir sur certaines réactions que vous avez eues hier, que j'ai vu certains avoir, et peut-être apporter quelques explications. Une réaction assez commune, c'est que les YouTubeurs n'ont pas le droit de se plaindre. Ils ont une vie de rêve. Ils testent, alors je prends les YouTubeurs tech, ils testent de la tech toute la journée. Ils gagnent beaucoup d'argent, ils ont un métier qui est facile et que, alors ça c'est généralement l'argument ultime, à côté il y a des gens qui ont des métiers beaucoup plus pénibles, pas du tout passionnants, et que en gros un YouTuber n'a pas le droit de se plaindre. Le deuxième truc qui revient très très souvent, c'est ta gueule, c'est la rançon de la gloire, t'avais qu'à pas devenir YouTuber, tu n'as que ce que tu mérites. Je traduis un peu, mais c'est un peu ce qu'on entend. Alors, à ça, j'aimerais apporter quelques précisions. Je comprends que ça puisse énerver certains de voir des YouTubers qui se plaignent, surtout qu'un YouTuber a un porte-voix assez puissant, puisqu'il fait des vidéos, donc que les gens regardent. Par rapport à d'autres métiers qui n'ont pas ces porte-voix, et là on en revient à des débats que moi je le vois avec les grèves actuelles, je ne veux pas rentrer dans des histoires politiques avec la grève, mais moi il y a un truc qui m'attriste quand même, c'est que certains métiers ont du pouvoir pour se faire entendre et d'autres non. Les deux commerçants dans la rue à côté qui ferment à cause de la grève parce que plus personne ne prenait le métro, ils ont raté les soldes et tout. Je vois personne en parler. Je ne vois pas leur voix s'exprimer. Et en ça, on peut dire qu'il y a une inégalité. Donc, je peux comprendre que ça puisse agacer certains de voir des YouTubeurs venir pleurer dans des vidéos. « Oh, la vie est dure, je suis en burn-out. » et du coup dire ah oh, mais putain ça va, t'as une vie de rêve. Alors ça, j'en arrive à mon deuxième propos. Et si vous écoutez la vidéo de Linus, elle est vachement intéressante parce que le début de la vidéo, il dit à quel point il a de la chance. Il dit à quel point c'est un boulot de rêve. Et moi, ça m'arrive hein, de me plaindre de la difficulté du métier de YouTuber. Mais attention, j'oublie parfois de préciser. Si j'ai choisi d'ailleurs de mettre toute ma carrière à la poubelle et de mettre des très bons salaires à la poubelle pour me lancer sur YouTube, où j'ai mis quasiment 5 ans à rendre le truc rentable, c'est bien parce que c'est quelque chose de passionnant. Et c'est quelque chose, c'est une aventure incroyable. Après, il faut pas se cacher derrière son petit doigt. Et si les YouTubers comme Linus, comme moi et tout, merci beaucoup Yannick, on a ce type de message en disant « Attention, vous ne voyez que le bon côté des choses. Quand on apparaît aux caméras, on est souriant. » Mais qui vous dit là que ce matin que j'ai eu, ou que hier soir j'ai pas eu des engueulades de boulot, ou que c'est la merde, ou que j'ai des problèmes fiscaux, ce genre de choses, on vous le dira pas. On va toujours présenter que ça soit sur notre Instagram, que ça soit dans nos vidéos, on va toujours vous présenter un personnage et une facette de notre vie qui est idéalisée. On ne vous dit pas la vérité. Ce n'est pas le vrai Jérôme que vous voyez là. Hein. Il est bon, il est de chair, mais on vous présente, parce qu'on est là pour vous informer, pour vous divertir, on n'est pas là pour partager nos problèmes avec vous. Alors, certains, et c'est là où justement, certains ont fait de leur cœur de métier de YouTuber une espèce de connivence et raconter leur vie privée, un peu mode vlogging, etc. Mais même eux vous diront que, en tout cas pour la plupart, ils mettent des barrières. Même un Casey Neistat dont on a partagé la vie pendant quasiment 2 ans, on le voit, et au début, il commençait à filmer sa fille et tout, mais il met des... Et donc, il a une vie privée. Tout ça pour dire... la vie de YouTuber n'est pas le fantasme idéalisé que vous voyez sur Instagram et sur YouTube. Merci beaucoup de Macelro. Je suis pas en train de dire tout ça hein, pour déclencher des super chats. Hein. Donc merci beaucoup hein, ceux qui mettent des super chats. Tout ça pour dire, je me perds un peu dans mes explications. Voilà, il y a un message de prévention à avoir. Et moi, je me sens cette responsabilité. Beaucoup de jeunes aujourd'hui fantasment sur la vie de YouTuber en pensant que les YouTubers, enfin les YouTubers, c'est un peu les nouvelles rockstars. C'est un peu, voilà, des carrières où je deviens famous. Tout le monde m'aime, je gagne plein de pognon et j'ai une vie super cool. Je prends des avions en business class pour aller à Las Vegas et je suis toujours sur des plages où il y a des couchers de soleil et c'est magnifique. Je pense qu'il est de mon devoir d'avertir que ce n'est pas ça la vie de YouTuber. En tout cas, on va dire de 99,9% de YouTubeurs. Et il y a une chose très, très importante à comprendre sur YouTube aujourd'hui et des problèmes de burn-out, de dépression, de suicide chez les YouTubers. Et ça, plus j'oscille dans le monde du YouTube, j'ai l'avantage d'avoir un certain âge, donc un certain recul par rapport au YouTube game, mais je regarde quand même ce qui se passe. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas complètement plongé dans le YouTube game. Moi, on va dire que je suis... Il y a qu'à voir aux soirées YouTube, hein. J'ai l'impression d'être le grand-père. bref, ça me donne un petit peu de distance. Il y a une chose à comprendre, et écoutez bien ce que j'ai à dire, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'il y a un vrai problème sur YouTube et les YouTubers. Aujourd'hui, YouTube a quelque chose d'unique. Il y a toujours eu des célébrités, des rockstars, des acteurs célèbres et ce genre de choses. Mais YouTube a créé ce modèle unique où quelqu'un qui a la notoriété et la célébrité d'une star, d'une rockstar, va gagner le SMIC. S'il s'y prend mal, mais il y en a qui s'y prennent très mal, il va gagner le SMIC. C'est-à-dire que, jusqu'ici, dans vos têtes, et me mentez pas, je sais que dans la plupart de vos têtes, c'est ça, célébrité égale richesse. C'est la fameuse phrase, la rançon de la gloire. Tu as la gloire, tu as la célébrité, donc tu as de l'argent, tu as de la ressource. Et ça a été vrai jusqu'au web. Tu était une star, une rock star ou un acteur célèbre, tes cachets augmentaient, tu vendais des disques, tu avais beaucoup, beaucoup d'argent, ce qui permettait de te payer un service d'ordre, un agent, un garde du corps, un coach, un psy, etc. Moi, je vais vous raconter une histoire, et après, je vais lire un petit peu ce que vous dites. Je vais vous raconter une histoire qui m'a beaucoup, beaucoup touché. J'étais justement à une soirée du YouTube Game, et j'ai parlé avec une jeune YouTubeuse, j'ai sympathisé avec une jeune YouTubeuse, dont je ne donnerai pas le nom, parce qu'en fait, elle représente beaucoup de YouTubeuses, et elle m'a expliqué sa vie, qui est un cauchemar. Elle a eu une célébrité très rapide. Je ne vous donnerai pas son nombre d'abonnés parce que sinon vous allez la trouver. Mais globalement, elle est maintenant connue. Elle s'est très mal démerdée. Elle est juste en gros payée par les vues. Elle ne savait pas vraiment comment mettre les pubs, etc. En plus, elle a eu des vidéos démonétisées, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, la situation de cette jeune fille, c'est qu'elle ne peut plus sortir de chez elle tellement elle est reconnue dans la rue par les gamins qui la harcèlent, mais elle ne gagne même pas le SMIC, donc elle ne peut absolument pas se planquer. Donc du coup, depuis près d'un an et demi, elle vit reclue chez elle, elle commande toutes ses courses à distance, et elle est au bord du burn-out. Moi, je dis, mais arrête! Mais on pose, fait autre chose. Mais ça aussi, on pourrait parler de tous les problèmes, mais elle est dans la spirale, mais si j'arrête les vidéos, plus personne ne m'aime. Enfin, c'est des spirales de notoriété. C'est juste pour dire, comprenez bien, parce que c'est une chose fondamentale à comprendre aujourd'hui sur les célébrités du web. Aujourd'hui, on peut être célèbre et pauvre. Et célèbre et pauvre, je vous le dis, c'est pas agréable. Parce que tu n'as aucun truc pour te protéger. Et il n'y a pas que des gens sympathiques qui viennent te voir dans la rue. Vraiment. Et même moi, à mon niveau, moi, ça va. Je ne suis pas à 200K. Je suis quand même reconnu dans la rue, certains d'entre vous. Et quand je peux... D'ailleurs, j'en profite pour m'excuser. Notamment, je crois que c'était samedi dernier. J'ai croisé l'un d'entre vous dans la rue qui m'a fait « Ah !» Et moi, j'étais vraiment super speed. Et j'ai pas été hyper poli. Mais je dis « Désolé, j'ai pas le temps. Ah !» Et je suis parti. Ça m'arrive, hein, d'être un petit peu speed. Mais globalement, moi, ça se passe bien. Mais j'ai déjà été emmerdé. Donc, imaginez quelqu'un qui a des millions d'abonnés, la vie qu'il a, sachant qu'il ne va avoir aucune protection, puisque sa célébrité n'a pas été accompagnée de la richesse. Mais pour vous, et je comprends, hein, pour vous, c'est... Ah, mais... Putain, t'as 1 million d'abonnés. Oh là là, la thune que tu dois gagner, les abonnés ne rapportent rien directement. Hein. Et les vues, alors, je vous spoil un truc. Je suis en train de préparer une vidéo. J'ai un peu peur de la sortir. Elle sortira peut-être la semaine prochaine. J'ai fait une grande vidéo très très longue qui va s'appeler YouTube, c'est pas gratuit. Qui va parler de tous les flux financiers, effectivement, qu'il y a dans YouTube. Je prends des risques parce que je ne sais pas si je dis des trucs que j'ai le droit de dire, mais je m'en fous. C'est justement un petit peu pour expliquer les flux financiers. Pourquoi certains YouTubeurs avec des niveaux de notoriété équivalents vont gagner 10 fois moins que d'autres. Je vous explique en fait tout ça. Donc ça va venir normalement la semaine prochaine. Je comprends pas l'intérêt de venir emmerder quelqu'un. Parce que les gens se rendent pas forcément compte. Et puis tu sais, il y a des gens... On leur a dit quelqu'un de célèbre. Enfin, il y a des gens qui pensent que quelqu'un qu'ils connaissent, une célébrité, leur appartient. Vraiment, je peux te dire qu'il y a pas mal de gens qui pensent ça. Emmerdé, t'es arrivé quoi ? Ben, par exemple, il y a quelqu'un qui m'a pris par l'épaule. J'étais dans le métro, qui m'a sorti du wagon du métro pour prendre un selfie avec moi. Ah, je peux te dire que je l'ai chopé par le callback, le gamin. Je lui ai dit, tu veux un selfie ? Tu montes dans le wagon avec moi. Et boum, je l'ai posé dans le wagon avec moi. Mais un des moments que j'ai le plus détesté, déjà je vous le dis, si jamais vous me croisez, moi je vous connais pas, ne l'oubliez pas, hein. Vous me connaissez, mais moi je vous connais pas, me touchez pas, je n'admets pas que une personne que je ne connais pas me touche, tu vois, la main sur l'épaule, c'est une familiarité, déjà tu vas me mettre de mauvaise humeur, je t'appartiens pas, tu me touches pas, quoi. Vous êtes prévenu. Voilà, c'est, je suis pas non plus, hein. Bref, et quelqu'un qui me met la main sur l'épaule et qui me dit ah salut Jérôme, comment ça va? Alors moi j'étais là, merde, ça doit être un vieux pote que j'ai oublié. Enfin j'étais super gêné et il s'est limite, il était avec sa copine et comme il voyait que je le reconnais, je lui ai dit mais je suis désolé mais je te connais pas. Mais si, je regarde ton émission tous les matins. Ouais mais mec, moi je te vois pas quoi. Et il s'énervait, en plus il voulait prouver un peu, je pense, des choses à sa copine, machin, donc il était désagréable, il me tenait par l'épaule, j'ai été désagréable, quoi. Voilà. Alors, c'est pas une agression, mais c'est un peu trop, quoi. Alors, je lis un peu vos réactions. D'accord, je ne savais pas, mais je me propose gracieusement quand même. J'apprécie beaucoup votre travail et une idée qui m'a traversé l'esprit. J'ai pas vu ce que tu as écrit avant, Matt, donc je n'arrive pas à suivre, hein, tous vos trucs. On parie que 90% des commentaires sous la vidéo seront « il ment, il se plaint ». Oui, mais à la limite, je peux comprendre que certains y voient une forme d'indécence que des youtubeurs se plaignent. Tu sais, c'est comme quand tu dis... c'est comme quand tu dis à quelqu'un putain, je vais mal, on m'a arraché une dent. Et que la personne te dit non, mais t'as pas le droit de te plaindre, il y a des gens qui ont des cancers à côté. Ça veut rien dire, t'as pas le droit de te plaindre, il y a des gens qui ont plus de souffrance. Parce que sinon, on s'arrête pas. Hein. Parce que si quelqu'un qui a le cancer, t'as pas le droit de te plaindre parce qu'il y a des enfants qui ont le cancer. Et puis les enfants qui ont le cancer, vous n'avez pas le droit de vous plaindre parce qu'il y a des enfants qui ont le cancer qui sont dans des pays où ils ne mangent pas à leur faim. Enfin, voilà, c'est un peu débile, mais c'est très enfantin. Hein. C'est ce qu'on nous apprend, c'est ce qu'on nous a rabâché pendant notre enfance. Tu n'as pas le droit de te plaindre de ce que tu as dans ton assiette et que tu n'aimes pas la purée de brocoli alors qu'il y a des enfants qui crèvent de faim dans le monde. Donc c'est un espèce de réflexe qu'on nous a donné étant enfant. Et qui fait qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Quoi. La surenchère. Bonjour, c'était quoi le sujet de base? On est parti de la vidéo de Linus Tech Tip. Je vous conseille vraiment de la regarder. Cette vidéo est un rare moment, et de ce que je connais de Linus... je pense qu'il dit vraiment la vérité. Là, pour le coup, c'est sans façade. C'est pas orchestré ou quoi que ce soit. Et il se livre et c'est extrêmement touchant. Parce qu'il parle effectivement de certaines difficultés qu'il a rencontrées. Il parle de moments vraiment émouvants. Il parle de moments où son métier, il doute. Il doute un peu. Et qu'on lui dit qu'il n'a pas le droit de douter. Hein, qu'il devrait être heureux, hein, de ce qu'il fait. Donc, il n'a pas le droit de se plaindre. Mais il en parle vraiment, j'ai trouvé, d'une manière touchante. Alors moi, je suis d'autant plus touché que Linus Tech Tip, je vous le dis, c'est pas forcément mon modèle en termes de contenu, parce que je suis beaucoup moins hardware et tout ça, mais la société qu'il a montée de production, c'est quelqu'un qui emploie une vingtaine de personnes, et ça lui permet de sortir plein de contenu et tout. C'est dans mes rêves ce que j'aimerais faire de Nowtech. J'aimerais, moi, un jour, qu'on gagne assez d'argent pour que j'embauche d'autres présentateurs, qu'on ait un vrai groupe média, que ça soit pas que moi, que d'ailleurs, moi, je puisse me mettre un petit peu en retrait. J'aimerais. Bon, pour l'instant, on en est très, très loin en termes de revenus financiers de pouvoir faire ça. Mais j'avoue que c'est un modèle pour moi, donc c'était vachement intéressant de l'écouter. Ouais, une vidéo sans script, effectivement. Ce qui est bien nul, car à l'hôpital, les patients ne parlent jamais de leur douleur, de peur qu'on les juge, car il y a pire. Oui, bon. Tu aimerais refaire No Watch? Ah non, 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 No Watch, j'ai donné. Non, No Watch, parce que quand je dis je veux pas refaire No Watch, No Watch était basé sur le bénévolat. Plus jamais. C'est pour ça que je refuse la plupart du temps des offres. Je remercie ceux qui m'ont proposé. J'essaye dans la mesure du possible, sauf effectivement, par exemple, Samuel, je le paye pas. Et Samuel nous aide gracieusement. Il y a toute une équipe bénévole. Mais on va dire, par exemple, je laisserai les postes de production et ce genre de choses, je paye, quoi. C'est hyper important. Le mug sans Jérôme, je ne sais pas si je continue à regarder. Bah, tu devrais, parce que le mug de Marion et le mug de Guillaume, et surtout maintenant qu'ils commencent à avoir leurs propres épices, tout le monde n'aime pas, mais ça, c'est plutôt un signe encourageant pour moi. Petit à petit, le mug de Marion et le mug de Guillaume ont leur propre caractère. Ça serait toujours difficile, et c'était le problème qu'on avait avant le mug, c'est que Marion, par exemple, était vue comme ma remplaçante. Et un remplaçant est toujours, un remplaçant ou une remplaçante est toujours jugée plus durement que l'original. Et vous pourriez être surpris, après, si un jour j'ai de quoi payer un autre présentateur, bien sûr qu'il faudra le casting, mais... Je pense que je prendrais quelqu'un qui a des spécialités que je n'ai pas moi. Je ne sais pas, quelqu'un par exemple qui est très très bon dans le DIY et qui pourrait être complémentaire et justement qui ferait grandir la chaîne, qui nous donnerait plus de possibilités, ce genre de choses. Donc ça pourrait être intéressant. Et moi, voilà, la chaîne ne s'appelle pas Jérôme Tech. Pour moi, c'est une chance. C'est que Nowtech, il peut y avoir d'autres présentateurs. Au niveau financier, n'y comptez pas avant un certain temps. Hein, parce que ça coûterait très très cher. Ben écoute, GM, pour toi, le mug, c'est moi. Mais sache-le, hein, moi, mon idée, quand même, c'est peut-être même de prendre un troisième présentateur du mug. Parce que je ne peux pas être là tous les matins. Hein. Mettre sa tronche publiquement en espérant la célébrité de l'autre côté prendre des selfies de son gourou est profondément malsain. La perspective est déprimante car rien ne changera si c'était là. Ça aussi, Jared la clope, c'est un truc sur les youtubeurs, ils font ça parce qu'ils veulent la gloire. Certains, oui, alors là, je ne vais pas contester. Certains, ils font ça pour la célébrité. Je peux te garantir, et tu peux me croire, que quand je me suis lancé sur YouTube... C'était vraiment pour partager mes passions. Et si j'avais su les effets de bord, pas sûr que je me serais lancé. Parce que, franchement, et puis en plus, c'est mon âge, moi, la perte d'anonymat, c'est pas un truc qui me plaît. Alors, certains me disent, mais pourquoi tu fais pas des vidéos en voix off? Mais parce que je mentirais aussi en disant que je n'aime pas un peu le challenge, que j'aime aussi le challenge. Moi qui étais quelqu'un hyper timide devant les caméras, les appareils photo, je supportais pas ma voix. Le fait de me mettre devant les caméras, c'est une forme aussi de thérapie et c'est une forme de plaisir. J'aime bien quand les gens me disent t'as fait une bonne vidéo et ça, j'y éprouve du plaisir et ça, je reconnais, je le fais pour ça. Je fais des vidéos pour que les gens les regardent. Hein. Je fais pas des vidéos pour plus que ça. Mais je me suis pas lancé, surtout à mon âge, dans YouTube pour devenir célèbre. Voilà. Mon idée de prendre un troisième présentateur. Oui, enfin un troisième autre que moi, oui, donc un quatrième, t'as raison. J'ai une question bête. La pub Zalando insupportable avant la vidéo. Je sais pas les pubs que vous voyez. Alors ça, c'est aussi une incompréhension. Nous, on décide pas des pubs qu'il y a avant. Hein. Donc oui, si tu l'as regardée plus de 5 secondes, elle me rapporte quelque chose, cette pub. Je touche 55% des revenus publicitaires, mais je vous préciserai tout ça dans une vidéo. Et ne me demandez pas que 1000 vues fait tant, parce que justement, je vous expliquerai dans les vidéos, ce vieux truc que 1000 vues égale tant de sous, ça n'existe pas en fait. C'est complètement faux et ça l'est de plus en plus. Parce que d'un YouTuber à l'autre, ça change complètement. Quel showman a quand une tournée dans tous les stades de France? Tu vois, je ne sais pas si en public je serais à l'aise. Hein. Donc, pas sûr, pas sûr. Mais les gens qui croient, c'est comme la vidéo que j'ai fait non sponsor de RhinoShield. Bah, forcément, il y a des pubs RhinoShield devant. Mais c'est pas moi qui décide qu'il y ait des pubs RhinoShield. C'est que RhinoShield, ils ont acheté les mots-clés RhinoShield sur YouTube. Cette vidéo sur RhinoShield non sponsorisée que j'ai fait, elle fait beaucoup de vues. Et du coup, il y a des pubs RhinoShield devant. Donc, les gens sont là. Tu nous dis que la vidéo, elle est pas sponsor et je viens de me taper 3 pubs RhinoShield. Ouais, désolé, mec, c'est pas de ma faute, hein. Allez, il est 9h10. Putain, c'est super tard. Je suis vraiment désolé, Samuel. On va faire un petit cornfac, du coup. Je vais rester que 5 minutes. Préparez vos questions. On passe effectivement à la dernière rubrique de l'émission. Alors, on est dans la dernière rubrique de l'émission. Est-ce qu'il y a des questions Platinium? Une question Platinium? Merde, dans le flipboard. Pas merde, oui, mais faut que j'aille la chercher dans le flipboard. Alors. Ok. Question Platinium de Louis Descherf. Hello Jérôme, quel cover pour iPad Pro 11 pouces choisir? Quel modèle utilise et quelles sont tes recommandations? Une vidéo qui va sortir aujourd'hui, par contre, sur les iPads, va te donner cette réponse. Mais comme tu es sympathique, je te la donne direct. Mais n'oubliez pas d'utiliser nos liens d'affiliation, merci. J'utilise les coques ESR. Surtout mes iPads, toutes les covers ESR, elles sont sobres, elles sont simples, il n'y a pas d'origami compliqué, elles sont relativement fines, la matière c'est un espèce de tissu renforcé, c'est facile à nettoyer et elles sont pas très chères. Donc voilà, mais attendez la vidéo de ce soir avant d'acheter parce qu'il y aura le lien directement vers justement ces covers. Il y a un truc pour tenir le pencil, oui. Salut Jérôme, j'envisage l'achat prochain d'un Lumix G9 pour succéder à mon vieillissant Canon 100D. Qu'en penses-tu? Désolé, hein, sortons, si tu vas prendre pour tous les autres, sortons du cadre. Comment voulez-vous que je réponde à cette question hors contexte? Tu me dis pas ce que tu vas faire avec le budget que tu as, l'expérience photo que tu as. C'est impossible pour moi de dire qu'est-ce que tu en penses. Bah, si c'est pour tourner une fiction, par exemple, je te dirais, économise peut-être encore un peu et passe plutôt à du GH5S ou ce genre de choses. Si c'est pour prendre des photos, on pourrait avoir un autre débat. Donc, en fait, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de meilleur appareil photo au monde. C'est utile ou pas, Google Home? Voilà ma réponse. Je ne suis pas... Les assistants... Ça m'est pas encore hyper utile, moi. J'hésite entre une Ferrari et une Twingo. Bon, non, mais là c'est... Non, ça, c'est un autre... Les gens qui me disent... non, enfin, c'est un autre débat. C'est pas ça. C'est plutôt quelqu'un qui me dirait... je vais acheter une Ferrari. Est-ce que c'est mieux qu'une Porsche? Et j'y connais rien en bagnole, donc je saurais pas vous dire... J'en sais rien, ça dépend ce que tu veux quoi dans ta bagnole. Tu penses quoi des robots multifonctions connectés, genre le TM6 de Thermomix? Alors j'en pense, mais alors rien du tout. C'est complètement passé sous mon radar. Hello Jérôme, allez-vous faire un test de votre MacBook 16 pouces? Non. Non, parce qu'il est déjà en production. Karina l'utilise tout le temps. Et en plus, un test de MacBook, c'est pas hyper intéressant. Enfin, moi, ça m'intéresse pas de faire ça. Plus de soucis d'AF sur ton GH5 depuis la mise à jour? Ça serait présomptueux de dire ça. Là, vous le voyez, hein, l'autofocus avec la mise à jour, il se démerde pas trop mal en temps réel. Mais là, c'est simple pour lui. On n'est pas au niveau de ce que Canon et Sony font en autofocus, on va être clair. Mais alors, c'est le jour et la nuit par rapport à autrefois hein, sur les GH5. Enfin, sur les Panasonic en général. Un device tech à conseiller ce mois-ci? Un truc que tu viens de découvrir? Non, comme ça, brûle pour point, je ne sais pas. Jérôme, tu continues à faire des vidéos qui te plaisent? On va dire à 85% oui. Est-ce que tu conseilles toujours le Lumix G80 pour débuter en photo ou alors tu as d'autres boîtiers en tête? Si tu es sur un budget, oui, le G80 est très bien. Je serais intéressé d'avoir ton avis pour les fournisseurs d'adresse mail. J'y connais rien. C'est pas à moi qu'il faut demander. J'y connais rien. J'utilise Gmail comme un gros connard. Présentation du Galaxy Books Flex prévue. Pas prévue pour l'instant. J'ai remarqué que tu as un lapin, un abastac derrière. Non, il marche toujours. Il marche pas. J'ai pas pris le kit. J'ai pas eu le temps. Voilà. C'est de la déco. Jérôme, quel est pour toi le produit tech de l'année? Putain, vous me posez de ces questions le matin? Je sais pas, il faut que j'y réfléchisse. Utilises-tu le clavier Logitech avec ton iPad? Oui, le Kitogo d'ailleurs, il est même là. Parce que je vais vous en parler dans la vidéo d'aujourd'hui. La vidéo qui normalement devrait sortir aujourd'hui, au pire lundi, c'est sur les iPads 2018-2019 et tous les iPads à moins de 350 euros. Est-ce qu'ils valent le coup ou pas? Donc si c'est dans vos préoccupations d'achat, ça peut vous intéresser. Et surtout, je vous explique tout ce qu'on peut faire avec un iPad, on va dire des iPads entrée de gamme, donc à moins de 350 euros. Oui, là, il commence à y avoir du monde chez SOS Ciné, c'est pour ça que vous entendez du bruit dehors. Non, non, mais en fait, je suis dans un passage relativement public. Hein. Une application mobile Nowtech, non. Ça n'aura aucun intérêt parce que ça serait juste cliquer sur les vidéos. Et pour ça, on a YouTube. Non, pour l'instant, on m'a pas présenté de projet d'application qui me faille dire qu'il faille que je débloque de l'argent pour faire une application Nowtech spécifique. Quoi. Donc non, pas de... Jérôme, as-tu vu les bracelets N-Vibe? J'ai pas eu le temps, hein, Zuber. Jérôme, est-ce que tu es heureux? Ça dépend des jours, comme vous tous. À quand une feature avec Léo Duff? Je l'ai faite, pas sur la chaîne, mais pendant les 24 heures sur Tech News and Test. J'ai fait, d'ailleurs, il est venu dans le mug, Léo Duff. Le mug que j'ai fait sur la chaîne Tech News and Test un samedi. Donc allez regarder le replay des 24 heures. Jérôme, ces étoiles sur ton pull, c'est des paillettes ou un hommage aux pellicules photographiques? Ça s'appelle un pull chiné. Voilà, c'est du chinage. Voilà, c'est pas des paillettes. Allez, il faut vraiment que j'y aille à 9h17, on exagère complètement. Je suis désolé, hein, je peux pas répondre à toutes les questions. L'émission est beaucoup trop longue, je suis désolé, mais c'est vrai qu'on avait, j'avais notamment une tartine assez intéressante, en tout cas pour moi. J'espère que ça vous a intéressé aussi. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. On se retrouve lundi matin, c'est moi. On se retrouve lundi matin donc sur la chaîne secondaire. Si vous avez apprécié cette formule, on se retrouve sur la chaîne secondaire. Et bonne journée à tous, encore une fois. Allez, ciao. Ça y est, Samuel, je m'en vais.